Chapitre 10. Deux moubis de Saint-Phal, deux têtes pour une couronne. Cette fois, Catherine avait si bien pris ses précautions qu'elle croyait être sûre de son fait. En conséquence, vers 10 heures, elle avait renvoyé Marguerite, bien convaincue, c'était d'ailleurs la vérité, que la reine de Navarre ignorait ce qui se tramait contre son mari, et elle était passée chez le roi, le priant de retarder son coucher. Intriguée par l'air de triomphe qui, malgré sa dissimulation habituelle, épanouissait le visage de sa mère, Charles questionna Catherine, qui lui répondit seulement ces mots. « Je ne puis dire qu'une chose à votre majesté, c'est que ce soir elle sera délivrée de ses deux plus cruels ennemis. » Charles fit ce mouvement de sourcil d'un homme qui se dit en lui-même « C'est bien, nous allons voir. » Et sifflant son grand lévrier, qui vint à lui en se traînant sur le ventre comme un serpent, et posa sa tête fine et intelligente sur le genou de son maître, il attendit. Au bout de quelques minutes, que Catherine passa les yeux fixes et l'oreille tendue, on entendit un coup de pistolet dans la cour du Louvre. « Qu'est-ce que ce bruit ? » demanda Charles en fronçant le sourcil, tandis que le lévrier se relevait par un mouvement brusque en redressant les oreilles. « Rien, dit Catherine, un signal, voilà tout. » « Et que signifie ce signal ?»« Il signifie qu'à partir de ce moment, si votre unique, votre véritable ennemi est hors de vous nuire. »« Vient-on de tuer un homme ?» demanda Charles en regardant sa mère avec cet œil de maître qui signifie que l'assassinat et la grâce sont deux attributs inhérents à la puissance royale. « Non, sire, on vient seulement d'en arrêter deux. » « Oh !» murmura Charles, « toujours ces trames cachées, toujours ces complots dont le roi n'est pas. Mort diable, ma mère, je suis grand garçon, cependant assez grand garçon pour veiller sur moi-même, et n'ai besoin ni de lisière ni de bourrelet. Allez-vous en Pologne avec votre fils Henri si vous voulez régner, mais ici, vous avez tort, je vous le dis, de jouer ce jeu-là. » « Mon fils, dit Catherine, c'est la dernière fois que je me mêle de vos affaires, mais c'était une entreprise commencée depuis longtemps, dans laquelle vous m'avez toujours donné tort, et je tenais à cœur de prouver à votre majesté que j'avais raison. » En ce moment, plusieurs hommes s'arrêtèrent dans le vestibule, et on entendit se poser sur la dalle la crosse de mousquet d'une petite troupe. Presque aussitôt, M. de Nancey fit demander permission d'entrer chez le roi. « Qu'il vienne, dit vivement Charles. » Monsieur de Nancey entra, salua le roi et se tournant vers Catherine. « Madame, dit-il, les ordres de votre majesté sont exécutés. Il est pris. »« Comment ? » il s'écria Catherine fort troublée. « N'en avez-vous pris qu'un ? » ?»« Il était seul, madame. » »« Et s'est-il défendu ?»« Non, il soupait tranquillement dans une chambre et a remis son épée à la première sommation. »« Qui cela ? » demanda le roi. « Vous allez voir, dit Catherine, faites entrer le prisonnier, monsieur de Nancey. » 5 minutes après, Demouis fut introduit. « Demouis ? » s'écria le roi. « Et qu'a-t-il donc, monsieur ?»« Eh, sire, dit Demouis avec une tranquillité parfaite, si votre majesté m'en accorde la permission, je lui ferai la même demande. » Et au lieu de faire cette demande au roi, dit Catherine, ayez la bonté, monsieur de Mouy, d'apprendre à mon fils quel est l'homme qui se trouvait dans la chambre du roi de Navarre certaine nuit, et qui, cette nuit-là, en résistant aux ordres de sa majesté comme un rebelle qu'il est, a tué 2 gardes et blessé monsieur de Maurevel. En effet, dit Charles en fronçant le sourcil, sauriez-vous le nom de cet homme, monsieur de Mouy? « Oui, sire, votre majesté désire-t-elle le connaître ? Cela me ferait plaisir, je l'avoue. »« Eh bien, sire, il s'appelait Demouis de Saint-Phal. »« C'était vous ? Moi-même. » Catherine, étonnée d'une telle audace, recula d'un pas vers le jeune homme. « Et comment, dit Charles IX, osâtes-vous résister aux ordres du roi ?» « D'abord, sire, j'ignorais qu'il y eût un ordre de votre majesté. Je n'ai vu qu'une chose, ou plutôt qu'un homme, monsieur de Maurevel, l'assassin de mon père et de monsieur l'amiral. Je me suis rappelé alors qu'il y avait un an et demi, dans cette même chambre où nous sommes, pendant la soirée du 24 août, votre majesté m'avait promis, parlant à moi-même, de nous faire justice du meurtrier. Or, comme il s'était depuis ce temps passé de graves événements, j'ai pensé que le roi avait été, malgré lui, détourné de ses désirs, et, voyant Maurevel à ma portée, j'ai cru que c'était le ciel qui me l'envoyait. Votre Majesté sait le reste, sire, j'ai frappé sur lui comme sur un assassin et tiré sur ses hommes comme sur des bandits. Charles ne répondit rien. Son amitié pour Henri lui avait fait voir depuis quelque temps bien des choses sous un autre point de vue que celui où il les avait envisagées d'abord et plus d'une fois avec terreur. La reine-mère, à propos de la Saint-Barthélemy, avait enregistré dans sa mémoire des propos sortis de la bouche de son fils et qui ressemblaient à des remords. « Mais, dit Catherine, que veniez-vous faire à pareille heure chez le roi de Navarre ?»« Oh, répondit de Mouy, c'est toute une histoire bien longue à raconter, mais si cependant sa majesté a la patience d'entendre... »« Oui, dit Charles, parlez donc, je le veux. »« J'obéirai, sire, dit de Mouy en s'inclinant. » Catherine s'assit en fixant sur le jeune chef un regard inquiet. « Sire, dit de Mouy, j'étais venu chez sa majesté le roi de Navarre comme député de nos frères, vos fidèles sujets de la religion. » Catherine fit signe à Charles IX. « Soyez tranquille, ma mère, dit celui-ci, je ne perds pas un mot. Continuez, monsieur de Mouy, continuez. Pourquoi étiez-vous venu ?»« Pour prévenir le roi de Navarre, continua monsieur de Mouy, que son abjuration lui avait fait perdre la confiance du parti huguenot, mais que cependant... En souvenir de son père Antoine de Bourbon et surtout en mémoire de sa mère, la courageuse Jeanne d'Albret, dont le nom est cher parmi nous, ceux de la religion lui devaient cette marque de déférence de le prier de se désister de ses droits à la couronne de Navarre. « Que dit-tu ? » s'écria Catherine, ne pouvant, malgré sa puissance sur elle-même, recevoir sans crier un peu le coup inattendu qui la frappait. « Ah, fit Charles, mais cette couronne de Navarre qu'on fait ainsi sans ma permission voltiger sur toutes les têtes, il me semble cependant qu'elle m'appartient un peu. Les Huguenots, sire, reconnaissent mieux que personne ce principe de suzeraineté que le roi vient d'émettre. Aussi espérait-il engager votre majesté à la fixer sur une tête qui lui est chère. « À moi, dit Charles, sur une tête qui m'est chère. Mordiable, de quelle tête voulez-vous parler, monsieur? Je ne vous comprends pas. » « Sur la tête de monsieur le duc d'Alençon. » Catherine devint pâle comme la mort et dévora de Mouy d'un regard flamboyant. « Et mon frère d'Alençon le savait ?»« Oui, sire. » « Et il acceptait cette couronne, sauf l'agrément de votre majesté à laquelle il nous renvoyait. » « Oh, dit Charles, en effet, c'est une couronne qui ira à merveille à notre frère d'Alençon, et moi qui n'y avais pas songé. Oh, merci de Mouy, merci, quand vous aurez des idées semblables, vous serez le bienvenu au Louvre. » « Sire, vous seriez instruit depuis longtemps de tout ce projet sans cette malheureuse affaire de Maurevel qui m'a fait craindre d'être tombé dans la disgrâce de votre majesté. »« Oui, mais, fit Catherine, que disait Henri de ce projet ?» Le roi de Navarre, madame, se soumettait au désir de ses frères, et sa renonciation était prête. « En ce cas, s'écria Catherine, cette renonciation, vous devez l'avoir. »« En effet, madame, dit de Mouy, par hasard, je l'ai sur moi, signée de lui et datée. » »« D'une date antérieure à la scène du Louvre, dit Catherine. » « Oui, de la veille, je crois. » Et de Mouy tira de sa poche une renonciation en faveur du duc d'Alençon, écrite, signée de la main de Henri et portant la date indiquée. « Ma foi, oui, dit Henri, et tout cela est bien en règle. » « Et que demandait Henri en échange de cette renonciation ?»« Rien, madame, l'amitié du roi Charles, nous a-t-il dit, le dédommagerait amplement de la perte d'une couronne. » Catherine mordit ses lèvres de colère et tordit ses belles mains. Alors, reprit la reine-mère, si tout était arrêté entre vous et le roi de Navarre, à quelle fin l'entrevue que vous avez eue ce soir avec lui ? Moi, madame, avec le roi de Navarre, dit monsieur de Mouy, monsieur de Nancy qui m'a arrêté fera foi que j'étais seul, votre majesté peut l'appeler. Monsieur de Nancy, dit le roi. Le capitaine des gardes reparut. « Monsieur de Nancy, dit vivement Catherine, monsieur de Mouy était-il tout à fait seul à l'auberge de la Belle Étoile ?»« Dans la chambre, oui, madame, mais dans l'auberge, non. »« Ah, dit Catherine, quel était son compagnon ?»« Je ne sais si c'était le compagnon de monsieur Dumouy, madame, mais je sais qu'il s'est échappé par une porte de derrière après avoir couché sur le carreau deux de mes gardes. Et vous avez reconnu ce gentilhomme, sans doute? Non, pas moi, mais mes gardes. Et quel était-il? Demanda Charles IX. Monsieur le comte Annibal de Coconas. Annibal de Coconas, répéta le roi assombri et rêveur, celui qui a fait un si terrible massacre de Huguenots pendant la Saint-Barthélemy. Monsieur de Coconas, ce gentilhomme de monsieur d'Alençon, dit monsieur de Nancy. C'est bien, dit Charles IX, retirez-vous, monsieur de Nancy, et une autre fois, souvenez-vous d'une chose. De laquelle, sire? C'est que vous êtes à mon service et que vous ne devez obéir qu'à moi. Monsieur de Nancy se retira à reculons en saluant respectueusement. Dumouy envoya un sourire ironique à Catherine. Il se fit un silence d'un instant. La reine tordait la ganse de sa cordelière, Charles caressait son chien. « Mais quel était votre but, monsieur ? » continua Charles. « Agissiez-vous violemment ? Contre qui, sire ? Mais contre Henri, contre François ou contre moi ? Sire, nous avions la renonciation de votre beau-frère, l'agrément de votre frère, et comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, nous étions sur le point de solliciter l'autorisation de votre majesté lorsqu'est arrivée cette fatale affaire du Louvre. Eh bien, ma mère, dit Charles, je ne vois aucun mal à tout cela. Vous étiez dans votre droit, monsieur Dumouy, en demandant un roi. Oui, la Navarre peut être et doit être un royaume séparé. Il y a plus, ce royaume semble fait exprès pour doter mon frère d'Alençon, qui a toujours eu si grande envie d'une couronne que, lorsque nous portons la nôtre, il ne peut détourner les yeux de dessus elle. La seule chose qui s'opposait à cette renonciation, c'était le droit de Henriot, mais puisqu'Henriot y renonce volontairement, volontairement, sire. Il paraît que c'est la volonté de Dieu. Monsieur Dumouy, vous êtes libre de retourner vers vos frères que j'ai châtiés, un peu durement peut-être, mais ceci est une affaire entre moi et Dieu. Et dites-leur que, puisqu'il désire pour roi de Navarre mon frère d'Alençon, le roi de France se rend à leur désir. À partir de ce moment, la Navarre est un royaume et son souverain s'appelle François. Je ne demande que 8 jours pour que mon frère quitte Paris avec l'éclat et la pompe qui conviennent à un roi. Allez, monsieur de Mouy, allez. Monsieur de Nancy, laissez passer monsieur de Mouy, il est libre. « Sire, dit Dumouy en faisant un pas en avant, votre majesté permet-elle ?»« Oui, dit le roi, et il tendit la main au jeune huguenot. » Dumouy mit un genou à terre et baisa la main du roi. « À propos, dit Charles, en le retenant au moment où il allait se relever, ne m'aviez-vous pas demandé justice de ce brigand de Maurevel ?»« Oui, sire. » Je ne sais où il est pour vous la faire, car il se cache, mais si vous le rencontrez, faites-vous justice vous-même. Je vous y autorise, de grand cœur. Ah, sire, s'écria Dumouy, voilà qui me comble véritablement, que votre majesté s'en rapporte à moi. Je ne sais plus où il est, mais je le trouverai, soyez tranquille. Et Dumouy, après avoir respectueusement salué le roi Charles et la reine Catherine, se retira sans que les gardes qui l'avaient amené missent aucun empêchement à sa sortie. Il traversa les corridors, gagna rapidement le guichet et, une fois dehors, ne fit qu'un bond de la place Saint-Germain-l'Auxerrois à l'auberge de la Belle Étoile où il retrouva son cheval grâce auquel, 3 heures après la scène que nous venons de raconter, le jeune homme respirait en sûreté derrière les murailles de Mantes. Catherine, dévorant sa colère, regagna son appartement, d'où elle passa dans celui de Marguerite. Elle y trouva Henri en robe de chambre et qui paraissait prêt à se mettre au lit. « Satan, murmura-t-elle, aide une pauvre mère pour qui Dieu ne veut plus rien faire. » « Compris, monsieur d'Alençon, de me venir voir, avait dit Charles en congédiant sa mère. Monsieur de Nancy, disposé, après l'invitation du roi, de n'obéir désormais qu'à lui-même, ne fit qu'un bond de chez Charles chez son frère, lui transmettant sans adoucissement aucun l'ordre qu'il venait de recevoir. Le duc d'Alençon tressaillit. En tout temps, il avait tremblé devant Charles, et à bien plus forte raison encore depuis qu'il s'était fait, en conspirant, des motifs de le craindre. En entrant, le duc d'Alençon surprit dans l'œil vitreux de Charles un de ces regards envenimés de haine qu'il connaissait si bien. Votre majesté m'a fait demander, me voici, sire, dit-il. Que désire de moi, votre majesté? Je désire vous dire, mon bon frère, que pour vous récompenser cette grande amitié que vous me portez, je suis décidé à faire aujourd'hui pour vous la chose que vous désirez le plus. Sire, dit François, j'en jure à mon frère, je ne désire que la continuation de la bonne santé du roi. Alors vous devez être satisfait d'Alençon, l'indisposition que j'ai éprouvée à l'époque de l'arrivée des Polonais est passée. J'ai échappé, grâce à Henriot, à un sanglier furieux qui voulait me découdre, et je me porte de façon à n'avoir rien envié aux mieux portants de mon royaume. Vous pouviez donc, sans être mauvais frère, désirer autre chose que la continuation de ma santé qui est excellente. Je ne désirais rien, sire. Si fait, François, reprit Charles s'impatientant, vous désirez la couronne de Navarre, puisque vous vous êtes entendu avec Henriot et de Mouy, avec le premier pour qu'il y renonça, avec le second pour qu'il vous la fît avoir. Eh bien, Henriot y renonce. De Mouy m'a transmis votre demande, et cette couronne que vous ambitionnez, eh bien, demanda d'Alençon d'une voix tremblante, eh bien, mort diable, elle est à vous. D'Alençon pâlit affreusement. Puis, tout à coup, le sang appelé à son cœur, qu'il faillit briser, reflua vers les extrémités, et une rougeur ardente lui brûla les joues. La faveur que lui faisait le roi le désespérait en pareil moment. « Mais, sire, reprit-il, tout en palpitant d'émotion et cherchant vainement à se remettre, je n'ai rien désiré, ni surtout rien demandé de pareil. » « C'est possible, dit le roi, car vous êtes fort discret, mon frère, mais on a désiré, on a demandé pour vous, mon frère. Sire, je vous jure que jamais, ne jurez pas Dieu. Mais, sire, vous m'exilez donc ? Vous appelez ça un exil, François ? Peste, vous êtes difficile. Qu'espériez-vous donc de mieux ? » D'Alençon se mordit les lèvres de désespoir. « Ma foi, continua Charles en affectant la bonhomie, je vous croyais moins populaire, François, et surtout moins près des Huguenots, mais ils vous demandent, il faut bien que je m'avoue à moi-même que je me trompais. D'ailleurs, je ne pouvais rien désirer de mieux que d'avoir un homme à moi, mon frère qui m'aime et qui est incapable de me trahir, à la tête d'un parti qui, depuis 30 ans, nous fait la guerre. Cela va tout calmer comme par enchantement, sans compter que nous serons tous rois dans la famille. Il n'y aura que le pauvre Henriot, qui ne sera rien que mon ami, mais il n'est point ambitieux à ce titre que personne ne réclame. Il le prendra, lui. « Oh, sire, vous vous trompez, ce titre, je le réclame, ce titre, qui y a plus droit que moi, sire, je vous en supplie, gardez-moi près de vous. » « Non pas, non pas, François, répondit Charles, ce serait faire votre malheur. » Comment cela? Pour 1000 raisons. Mais voyez donc un peu, sire, si vous trouverez jamais un compagnon plus fidèle que je ne suis. Depuis mon enfance, je n'ai jamais quitté votre majesté. Je le sais bien, et quelquefois même, je vous aurais voulu voir plus loin. Que veut dire mon roi? Rien, rien, je m'entends. Oh, que vous aurez de belles chasses là-bas, François, que je vous porte en vie. Savez-vous qu'on chasse l'ours dans ces diables de montagne comme on chasse ici le sanglier? Vous allez nous entretenir tous de peaux magnifiques. Hein, cela se chasse au poignard, vous savez. On attend l'animal, on l'excite, on l'irrite, il marche au chasseur, et à 4 pas de lui, il se dresse sur ses pattes de derrière. C'est à ce moment-là qu'on lui enfonce l'acier dans le cœur, comme Henri a fait pour le sanglier à la dernière chasse. Ah, c'est dangereux, mais vous êtes brave, François, et ce danger sera pour vous un plaisir. Ah, votre majesté redouble mes chagrins, car je ne chasserai plus avec elle. Corbeuf, tant mieux, dit le roi, cela ne nous réussit ni à l'un ni à l'autre de chasser ensemble. Que veut dire votre majesté? Que chasser avec moi vous cause un tel plaisir et vous donne une telle émotion que vous, qui êtes l'adresse en personne, que vous, qui avec la première arquebuse venue abattez une pie à 100 pas, vous avez, la dernière fois que nous avons chassé en compagnie, avec votre arme, une arme qui vous est familière, manqué à 20 pas un gros sanglier et cassé par contre la jambe à mon meilleur cheval. Mort diable, François, cela donne à songer, savez-vous? « Sire, pardonnez à l'émotion, dit d'Alençon, devenu livide. « Eh oui, reprit Charles, l'émotion, je le sais bien, c'est à cause de cette émotion que j'apprécie à sa juste valeur ce que je vous dis. Croyez-moi, Charles, mieux vaut chasser loin de l'autre, surtout quand on a des émotions pareilles. Réfléchissez à cela, mon frère, non pas en ma présence vous trouble, je le vois, mais quand vous serez seul, et vous conviendrez que j'ai tout lieu de craindre qu'à une nouvelle chasse, une autre émotion vienne à vous prendre, car alors il n'y a rien qui fasse relever la main comme l'émotion, car alors vous tueriez le cavalier au lieu du cheval, le roi au lieu de la bête. Peste, une balle placée trop haut ou trop bas, cela change fort la face d'un gouvernement, et nous en avons un exemple dans la famille. Quand Montgomery a tué notre père Henri II par accident, par émotion peut-être, le coup a porté notre frère François II sur le trône et notre père Henri à Saint-Denis. Il faut si peu de choses à Dieu pour faire beaucoup. Le duc sentit la sueur ruisseler sur son front pendant ce choc aussi redoutable qu'imprévu. Il était impossible que le roi dît plus clairement à son frère qu'il avait tout deviné. Charles, voilant sa colère sous une ombre de plaisanterie, était peut-être plus terrible encore que s'il eût laissé la lave haineuse qui lui dévorait le cœur se répandre bouillante au dehors. Sa vengeance paraissait proportionnée à sa rancune. À mesure que l'une s'aigrissait, l'autre grandissait, et pour la première fois, d'Alençon connut le remords, ou plutôt le regret, d'avoir conçu un crime qui n'avait pas réussi. Il avait soutenu la lutte tant qu'il avait pu, mais sous ce dernier coup, il plia la tête, et Charles vit poindre dans ses yeux cette flamme dévorante qui, chez les êtres d'une nature tendre, creuse le sillon par où jaillissent les larmes. Mais d'Alençon était de ceux-là qui ne pleurent que de rage. Charles tenait fixé sur lui un œil de vautour, aspirant pour ainsi dire chacune des sensations qui se succédaient dans le cœur du jeune homme. Il le laissa un instant écrasé, immobile et muet. Puis, d'une voix empreinte de haineuse fermeté, « Mon frère, dit-il, nous vous avons dit notre résolution, et notre résolution est immuable, vous partirez. » D'Alençon fit un mouvement, Charles ne parut pas remarquer et continua, « Je veux que la Navarre soit fière d'avoir pour prince un frère du roi de France. » Or, pouvoir, honneur, vous aurez tout ce qui convient à votre naissance, comme votre frère Henri l'a eu, et comme lui, ajouta-t-il en souriant, vous me bénirez de loin. Mais n'importe, les bénédictions ne connaissent pas de distance. Mais, dit le duc d'Alençon, votre majesté oublie son bon ami Henri. Henri, mais puisque je vous ai dit qu'il n'en voulait pas du trône de Navarre, puisque je vous ai déjà dit qu'il voulait abandonner, Henri est un joyeux garçon et non pas une face pâle comme vous. Il veut rire et s'amuser à son aise et non sécher comme nous sommes condamnés à nous faire sous nos couronnes. D'Alençon poussa un soupir. Mais, dit-il, votre majesté m'ordonne donc de m'occuper. Non pas, ne vous inquiétez de rien, François, je réglerai tout moi-même. Reposez-vous sur moi comme sur un bon frère. Et maintenant que tout est convenu, allez, dites ou ne dites pas notre entretien à vos amis. Je veux prendre des mesures pour que la chose devienne bientôt publique. Allez, François. » Il n'y avait rien à répondre, le duc salua et partit, la rage dans le cœur. Il brûlait de trouver Henri pour causer avec lui de tout ce qui venait de se passer, mais il ne trouva que Catherine. En effet, Henri fouillait l'entretien et la reine-mère le recherchait. Le duc, en voyant Catherine, étouffa aussitôt ses douleurs et essaya de sourire. Moins heureux que Henri d'Anjou, ce n'était pas une mère qu'il cherchait dans Catherine, mais simplement une alliée. Il commençait donc par dissimuler avec elle, car pour faire des bonnes alliances, il faut bien se tromper un peu mutuellement. Il aborda donc Catherine avec un visage où ne restait plus qu'une légère trace d'inquiétude. « Eh bien, madame, dit-il, voilà de grandes nouvelles, les savez-vous ? Je sais qu'il s'agit de faire un roi de vous, monsieur. C'est une grande bonté de la part de mon frère, madame. N'est-ce pas ? Et je suis presque tenté de croire que je dois reporter sur vous une partie de ma reconnaissance, car si c'était vous qui lui eussiez donné le conseil de me faire don d'un trône, c'est à vous que je le devrais. Quoique j'avoue, au fond, qu'il me fait peine de dépouiller ainsi le roi de Navarre. Vous aimez fort Henriot, mon fils, à ce qu'il paraît. Mais oui, depuis quelque temps, nous sommes intimement liés. Croyez-vous qu'il vous aime autant que vous l'aimez vous-même ? Je l'espère, madame. C'est édifiant, une pareille amitié, savez-vous, surtout entre princes. Les amitiés de cour passent pour peu solides, mon cher François. Ma mère songeait que nous sommes non seulement amis, mais encore presque frères. Catherine sourit d'un étrange sourire. Bon, dit-elle, est-ce qu'il y a des frères entre rois? Oh, quant à cela, nous n'étions rois ni l'un ni l'autre, ma mère, quand nous nous sommes liés ainsi. Nous ne devions même jamais l'être, et voilà pourquoi nous nous aimions. Oui, mais les choses sont bien changées à cette heure. Comment bien changées? Oui, sans doute. Qui vous dit maintenant que vous ne serez pas tous deux rois? Au tressaillement nerveux du duc, à la rougeur qui envahit son front, Catherine vit que le coup lancé par elle avait porté en plein cœur. Lui, dit Henriot, roi, et de quel royaume, ma mère? D'un des plus magnifiques de la chrétienté, mon fils. Ah, ma mère, dit d'Alençon en pâlissant, que dites-vous donc là? Ce qu'une bonne mère doit dire à son fils, ce à quoi vous avez plus d'une fois songé, François. Moi, dit le duc, je n'ai songé à rien, madame, je vous jure. Je veux bien vous croire, car votre ami, comme votre frère Henri, comme vous l'appelez, est, sous sa franchise apparente, un seigneur fort habile et fort rusé, qui garde ses secrets mieux que vous ne gardez les vôtres, François. Par exemple, vous a-t-il jamais dit que de Mouy fut son homme d'affaires? Et en disant ces mots, Catherine plongea son regard comme un stylet dans l'âme de François. Mais celui-ci n'avait qu'une vertu, ou plutôt qu'un vice, la dissimulation. Il supporta donc parfaitement le regard. De Mouy, dit-il avec surprise, et comme si ce nom était prononcé pour la première fois devant lui en pareille circonstance. Oui, le huguenot de Mouy de Saint-Phal, celui-là même qui a failli tuer monsieur de Maurevel, et qui, clandestinement, et en courant la France et la capitale sous des habits différents, intrigue, élève une armée pour soutenir votre frère Henri contre votre famille. Catherine, qui ignorait que sous ce rapport son fils François en sut autant ou même plus qu'elle, se leva sur ces mots, s'apprêtant à faire une majestueuse sortie. François la retint. Ma mère, dit-il, encore un mot, s'il vous plaît, puisque vous daignez m'initier à votre politique, dites-moi comment, avec de si faibles ressources et si peu connu qu'il est, Henri parviendrait-il à se faire une guerre assez sérieuse pour inquiéter ma famille? Enfant, dit la reine en souriant, sachez donc qu'il est soutenu par plus de 30 000 hommes peut-être, que le jour où il dira un mot, ces 30 000 hommes apparaîtront tout un coup comme s'ils sortaient de terre, et ces 30 000 hommes, ce sont des huguenots, songez-y, c'est-à-dire les plus braves soldats du monde. Et puis, il y a une protection que vous n'avez pas su ou pas voulu vous concilier, vous. Laquelle? Il y a le roi qui l'aime, qui le pousse, le roi qui, par jalousie contre votre frère de Pologne et par dépit contre vous, cherche autour de lui des successeurs. Seulement, aveuglé que vous êtes, vous ne le voyez pas. Il les cherche autre part que dans sa famille. Le roi, vous croyez, ma mère? Ne vous êtes-vous donc pas aperçu qu'il chérit Henriot, son Henriot? Si fait, ma mère, si fait. Et qu'il en est payé en retour, car ce même Henriot, oubliant que son beau-frère le voulait arquebuser le jour de la Saint-Barthélemy, se couche à plat ventre comme un chien qui lèche la main dont il a été battu. Oui, murmura François, je l'ai déjà remarqué, Henri est bien humble avec mon frère Charles, ingénieux à lui complaire en toutes choses. Au point que, dépité d'être toujours raillé par le roi sur son ignorance à la chasse aux faucons, il veut se mettre à. Si bien qu'hier, il m'a demandé, oui, pas plus tard qu'hier, si je n'avais point quelque bon livre qui traite de cet art. Attendez donc, dit Catherine, dont les yeux étincelèrent comme si une idée subite lui traversait l'esprit. Attendez donc, et qu'avez-vous répondu? Que je chercherai dans ma bibliothèque. Bien, dit Catherine, bien, il faut qu'il l'ait, ce livre. Mais j'ai cherché, madame, et je n'ai rien trouvé. Je trouverai, moi, je trouverai, et vous lui donnerez ce livre comme s'il venait de vous. Et qu'en résultera-t-il? Avez-vous confiance en moi, d'Alençon? Oui, ma mère. Voulez-vous m'obéir aveuglément à l'égard de Henri, que vous n'aimez pas, quoi que vous en disiez? D'Alençon sourit. Et que je déteste, moi? Continua Catherine. Oui, j'obéirai. Après-demain, venez chercher le livre ici, je vous le donnerai, vous le portez à Henri et laissez Dieu, la Providence ou le hasard faire le reste. François connaissait assez sa mère pour savoir qu'elle ne s'en rapportait point d'habitude à Dieu, à la Providence ou au hasard du soin de servir ses amitiés ou ses haines, mais il se garda d'ajouter un seul mot, et saluant un homme qui accepte la commission dont on le charge, il se retira chez lui. Pendant ce temps, Marguerite, avec l'intermédiaire de Lamolle, recevait une lettre de Demouy, car en politique, les deux illustres conjoints n'avaient point de secret. Elle décacheta cette lettre et la lut. Sans doute cette lettre lui parut intéressante, car à l'instant même, Marguerite, profitant de l'obscurité qui commençait à descendre le long des murailles du Louvre, se glissa dans le passage secret, monta l'escalier tournant, et après avoir regardé de tous côtés avec attention, s'élança, rapide comme une ombre, et disparut dans l'antichambre du roi de Navarre. Cette antichambre n'était plus gardée par personne depuis la disparition d'Orton. Cette disparition, dont nous n'avons pas parlé depuis le moment où le lecteur l'a vue s'opérer d'une façon si tragique pour le pauvre Orton, avait fort inquiété Henri. Il s'en était ouvert à Madame de Sauve et à sa femme, mais ni l'une ni l'autre n'étaient plus instruites que lui. Seulement, Madame de Sauve lui avait donné quelques renseignements, à la suite desquels il était demeuré parfaitement clair à l'esprit de Henri que le pauvre enfant avait été victime de quelques machinations de la reine-mère et que c'était à la suite de cette machination qu'il avait failli, lui, être arrêté avec Demouy dans l'auberge de la Belle Étoile. Un autre que Henri eut gardé le silence, car il n'eut rien osé dire, mais Henri calculait tout. Il comprit que son silence le trahirait. D'ordinaire, on ne perd pas ainsi un de ses serviteurs, un de ses confidents, sans s'informer de lui, sans faire des recherches. Henri s'informa donc, rechercha donc, en présence du roi et de la reine-mère elle-même. Il demanda Orton à tout le monde. L'antichambre, comme nous l'avons dit, était donc vide lorsque Marguerite se présenta chez Henri. Si légers que fussent les pas de la reine, Henri les entendit et se retourna. « Vous, madame ! » s'écria-t-il. « Oui, répondit Marguerite, lisez vite. » Et elle lui présenta le papier tout ouvert. Il contenait ces lignes. « Sire, le moment est venu de mettre notre projet de fuite à exécution. Après-demain, il y a chasse au vol le long de la Seine, depuis Saint-Germain jusqu'à Maison, c'est-à-dire dans toute la longueur de la forêt. Allez à cette chasse, quoi que ce soit une chasse au vol, prenez sous votre habit une bonne chemise de maille, saignez votre meilleure épée, montez le plus fin cheval de votre écurie. Vers midi, c'est-à-dire au plus fort de la chasse, et quand le roi sera lancé à la suite du faucon, dérobez-vous seul, si vous venez seul, avec la reine de Navarre, si la reine vous suit. 50 des nôtres seront cachés au pavillon de François Ier, dont nous avons la clé. Tout le monde ignorera qu'ils y sont, car ils y sont venus la nuit et les jalousies en seront fermées. Vous passerez par l'allée des Violettes, au bout de laquelle je veillerai. À droite de cette allée, dans une petite clairière, seront messieurs de Lamolle et Coconas avec deux chevaux de main. Ces chevaux frais seront destinés à remplacer le vôtre et celui de Sa Majesté la Reine de Navarre, si par hasard ils étaient fatigués. Adieu, sire, soyez prêts, nous le serons. « Allons, sire, devenez un héros, ce n'est pas difficile, vous n'avez qu'à suivre votre route et faites-moi un beau trône, » dit la fille de Henri II. Un imperceptible sourire effleura la lèvre fine du Béarnais. Il baisa la main de Marguerite et sortit le premier pour explorer le passage tout en fredonnant le refrain d'une vieille chanson « S'il qui mieux bâtit la muraille n'entra point dedans le château ». La précaution n'était pas mauvaise. Au moment où il ouvrait la porte de sa chambre à coucher, le duc d'Alençon ouvrait celle de son antichambre. Il fit de la main un signe à Marguerite, puis tout haut. « Ah, c'est vous, mon frère, dit-il, soyez le bienvenu !» Au signe de son mari, la reine avait tout compris et s'était jetée dans un cabinet de toilette devant la porte duquel pendait une énorme tapisserie. Le duc d'Alençon entra d'un pas craintif en regardant autour de lui. « Sommes-nous seuls, mon frère ? » demanda-t-il à demi-voix. « Parfaitement seuls. Qu'y a-t-il donc ? Vous paraissez tout bouleversé. »« Il y a que nous sommes découverts, Henri. »« Comment, découverts ? » ?»« Oui, Demouy a été arrêté. Ben, »« Je le sais. »« Eh bien, Demouy a tout dit au roi. »« Qu'a-t-il dit ? » ?»« Il a dit que je désirais le trône de Navarre et que je conspirais pour l'obtenir. « Ah, pécaïre, dit Henri, de sorte que nous voilà compromis, mon pauvre frère. »« Oui, reprit François, le cas est épineux. Voici pourquoi je suis venu vous demander votre avis, mon frère. Que croyez-vous que je dois faire, fuir ou rester ?»« Vous avez vu le roi, puisque c'est à vous qu'il a parlé. »« Oui, sans doute. Eh bien, vous avez dû lire dans sa pensée. Suivez votre inspiration. »« J'aimerais mieux rester, répondit François. » Si maître qu'il fût de lui-même, Henri laissa échapper un mouvement de joie. Si imperceptible que fût ce mouvement, François le surprit au passage. « Restez alors, dit Henri. Mais vous, dame, répondit Henri, si vous restez, je n'ai aucun motif pour m'en aller, moi. Je ne partais que pour vous suivre, par dévouement, pour ne pas quitter un frère que j'aime. » Ainsi, dit d'Alençon, c'en est fait de tous nos plans. Vous vous abandonnez sans lutte au premier entraînement de la mauvaise fortune ? Moi, dit Henri, je ne regarde pas comme une mauvaise fortune de demeurer ici. Grâce à mon caractère insoucieux, je me trouve bien partout. Eh bien, soit, dit d'Alençon, n'en parlons plus. Seulement, si vous prenez quelques résolutions nouvelles, faites-la-moi savoir. « Corbleu, je n'y manquerai pas, croyez-le bien, répondit Henri. N'est-il pas convenu que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre ?» D'Alençon n'insista pas davantage et se retira tout pensif, car à un certain moment il avait cru voir trembler la tapisserie du cabinet de toilette. En effet, à peine d'Alençon était-il sorti que cette tapisserie se souleva et que Marguerite reparut. « Que pensez-vous de cette visite ? Demanda Henri. Qu'il y a quelque chose de nouveau et d'important. Et que croyez-vous qu'il y ait ? Je n'en sais rien encore, mais je le saurai. En attendant, ne manquez pas de venir chez moi demain soir. Je n'aurai garde d'y manquer, madame, dit Henri en baisant galamment la main de sa femme. Et avec les mêmes précautions qu'elle en était sortie, Marguerite rentra chez elle.